Voilà, est-ce qu'on est reçu ? Oui ? Voilà. Bon, alors, l'équipe de Comaguerre, qui est réunie dans les studios de Radio Galère, salue l'auditoire qui est là, avec un petit peu de retard. Notre salut arrive avec un petit peu de retard, parce qu'il y avait une espèce de musique pirate qui était sur l'onde. Si. Enfin, nous, on avait une espèce de musique. Je ne sais pas si les auditeurs ont entendu la musique pirate. Bon, c'est terminé, la situation est rétablie, il n'y a plus de pirates, donc on va continuer à s'exprimer. Donc, l'équipe de radio de Comaguerre est là, donc Roselyne à la technique, que je salue, et Habib, qui est là aussi, que je salue. Alors, je voulais commencer par reparler du sujet que j'ai longuement abordé la semaine dernière, qui était les BRICS, pour y consacrer évidemment beaucoup moins de temps, mais pour vous dire la découverte que j'ai faite en lisant tous les commentaires qui sont faits sur les BRICS. Le premier commentaire de cela, et je vous le livre pour ce qu'il est, c'est que la majorité des journalistes, à peu près dans tous les pays du monde, enfin sur tous les médias que je lis dans différentes langues, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien en particulier, et le français, font comme si les BRICS étaient pour eux une découverte. Ça veut dire... Non mais c'est très intéressant à réfléchir là-dessus. C'est une découverte parce qu'ils n'en ont, eux, jamais parlé ou jamais entendu parler ou que ça n'a, pour eux, jamais eu d'importance. Alors je voudrais insister sur le fait que le concept de BRICS est un concept principalement économique concernant les pays émergents, les grands pays émergents, qui ne font pas partie de la sphère occidentale et que les BRICS se sont constitués en 2009. Donc il y a 14 ans, hein. Et donc, heureusement, je me félicite que Comaguerre ait pris le temps, à l'occasion, on n'a pas consacré d'énormes émissions sur les BRICS, mais on a cité l'existence des BRICS, on a expliqué ce qu'ils faisaient, ce qu'ils commençaient à faire, et maintenant ils sont en train de se développer. Mais je voulais vous faire part de cette première surprise, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, et je pense que c'est vrai principalement dans les opinions occidentales, évidemment, c'était quelque chose qui n'avait pas d'importance. Alors je pense que ceux qui suivaient les affaires de près, je pense les diplomaties occidentales, qu'elles soient européennes, états-uniennes et tout, eux savaient très bien ce qui se passait. Mais effectivement, est-ce qu'il y a eu une consigne de dire « on fait silence sur les BRICS » ? J'en sais rien, mais on ne peut pas l'exclure, ou bien simplement un désintérêt. « Oh ben c'est le tiers-monde, c'est les autres, c'est les noirs et les jaunes, c'est je ne sais pas quoi. Hein. » Et c'est pas très intéressant, et puis ça n'ira peut-être pas bien loin. Hein. Sous-entendu, ça n'ira pas très loin, parce qu'on voudrait bien que ça n'aille pas très très loin. Hein. J'essaye de me mettre dans la tête de ceux qui considéraient que c'était un phénomène secondaire. C'était pas du tout un phénomène secondaire. C'était une idée qui avait été reprise, effectivement, au départ, d'un économiste des États-Unis qui avait regardé la situation économique mondiale et puis qui avait regardé les tendances de croissance des produits intérieurs bruts, des industries, etc., ici et là, et qui avait dit « il y a un certain nombre de pays qui vont devenir, d'abord ils sont peuplés, ils vont devenir très importants sur la scène internationale ». Et ça, c'était juste, et donc c'est à partir de cette observation que n'importe qui pouvait faire que les BRICS se sont rassemblés. D'abord les BRICS, puis ils ont ajouté l'Afrique du Sud qui a trouvé toute sa place là-dedans, et qu'ils ont continué leur chemin. Et ce chemin-là, et mon observation est là, ce chemin-là n'a pas beaucoup été décrit aux opinions publiques occidentales. Simplement parce que je pense à déranger les dirigeants occidentaux. Ils auraient bien aimé que ça n'aille nulle part. Bon, maintenant la preuve est établie que c'est allé quelque part. La preuve, c'est stabilisé, c'est en train de s'agrandir, ça a un énorme écho mondial, et puis ça pèse beaucoup plus lourd que ça ne pesait effectivement il y a 13 ans en termes de production industrielle. Je rappelle qu'en termes de production industrielle, c'est beaucoup plus précis que les PIB avec la parité, la production industrielle. C'est des objets qui sortent d'usines, qui existent. C'est pas du vent, c'est pas des intérêts bancaires, c'est pas un compte qui flambe et qui augmente. Les fortunes dont on vous parle, que ce soit celle de M. Musk ou de n'importe qui d'autre, de Bernard Arnault, c'est d'abord le chiffre sur un compte en banque. Et ça veut dire que c'est lié au cours des actions de ces messieurs-là. Et le cours des actions, s'il diminue de 20%, la fortune de M. Musk et la fortune de M. Bernard Arnault, elle diminue de 20%. Mais une usine qui continue à progresser, à augmenter sa production, et qui fait 20% de plus de tout ce que vous voulez, de téléphones, d'automobiles, elle a fait 20% d'objets qui vont sur le marché et qui ont des clients. Ce n'est pas tout à fait la même réalité. Et aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que les BRICS, c'est 40% de la production industrielle mondiale. ce qui se fabrique en Inde, ce qui se fabrique en Chine, ce qui se fabrique en Russie, ce qui se fabrique au Brésil, tout ça fait partie de la production industrielle mondiale. Bon. Et puis, il y a des nouveaux qui vont ajouter leur production aussi. Ça, c'était une première donnée sur laquelle je voulais m'arrêter. Et puis, on aura d'autres échos qui viendront au fil du temps, puisque l'annonce des 6 nouveaux dont j'ai parlé, je ne reviens pas là-dessus, a bien été confirmée pour le 1er janvier 2024. Donc, les choses vont se mettre en place sur les modes de fonctionnement, les régulations, le type de travail qui va se faire dans ce nouveau groupe des 5 plus les 6. Simplement, on a déjà des conséquences diplomatiques très intéressantes. La première sur laquelle je vais m'arrêter, et puis on en aura d'autres au fil des semaines, c'est le fait qu'il va se tenir en Inde une réunion du G20. Alors le G20, c'est quoi ? Le G20, c'est les 20 premières économies mondiales en PIB, toujours en produit intérieur brut. Ça n'existe que parce que on veut bien. Enfin, les gens qui y vont sont contents d'être dans les 20 premiers. Comme ça, il y en a 180 qui ne sont pas dans la course. Hein. Il y a 20 gros et puis 180 petits. Enfin, petits ou moyens. Bon. Mais ça n'existe que parce que les 20 premiers ont décidé qu'ils représentaient, c'est effectivement le cas, 80% du PIB mondial et qu'eux, ils avaient une vision mondiale des affaires, ce qui n'est pas le cas de plus petits pays de 5-10 millions d'habitants avec une production assez faible. Bon, c'est vrai. Mais au fond, ça n'est pas une institution, le G20, c'est l'opportunité. On peut d'ailleurs y rentrer et en sortir, puisqu'on peut à un moment donné rentrer dans le G20 parce qu'on fait partie, on devient la 20e puissance économique mondiale. On pourrait aussi bien en ressortir. Mais ce qui se passe est très intéressant à suivre. Donc la réunion du G20, donc, qui est prévue en Inde, va être marquée par deux absences exceptionnelles qui font partie des membres habituels du G20. La première absence, c'est la Russie. Et la deuxième absence qui a été annoncée après, c'est celle de la Chine. C'est-à-dire qu'il n'y aura, alors, il y aura toujours un ministre, et tout, ils sont là, on les invite, ils sont là, mais il n'y aura ni le président Poutine, ni le président Xi Jinping qui assisteront à la réunion du G20. C'est très très intéressant, parce que ça veut dire quoi ? D'abord que dans le G20, pratiquement, il y a la quasi-totalité des pays du BRICS qui en sont membres. Hein. Donc ils ont d'autres façons, ils n'ont pas besoin de venir en Inde pour se parler, hein, le président brésilien ou le président russe, et ils peuvent se parler régulièrement. Ils se sont vus et ils se verront à chaque fois que c'est nécessaire, dans les occasions, à l'intérieur des réunions des BRICS. Que ce soit les présidents, que ce soit les premiers ministres, que ce soit les ministres de l'industrie, les ministres des Affaires étrangères, il y a des contacts à tous les niveaux au sein des BRICS. Donc, effectivement, on peut dire Poutine n'a pas intérêt particulier à venir passer 3 jours en Inde, hein, parce qu'en fait, il sait que pendant ces 3 jours, on va essayer de lui proposer un rendez-vous avec M. Blinken ou avec M. Biden, qui va lui dire n'importe quoi, et de toute façon, il dira le contraire quand il sera rentré à Washington. Hein. On va il ne serait pas venu d'ailleurs, parce qu'à cause toujours de cette histoire de cour pénale internationale. Et puis, le président chinois, il se dit, mais moi, ce n'est pas la peine que j'aille au G20. Hein. D'abord, les gens viennent me voir, et puis les gens avec qui j'ai des rapports de confiance, ce qui n'est pas le cas avec les États-Unis, je les vois dans le cadre des BRICS, puisque le cadre des BRICS, c'est un cadre de rapport de confiance. Je ne te fais pas de sanctions, je ne te mens pas, j'essaye de mettre nos intérêts en face et d'en discuter posément, je ne t'envoie pas d'armée pour te faire changer d'avis. C'est ça les rapports entre les BRICS. C'est ça qui nous étonne beaucoup, et c'est ce qui étonne beaucoup les États-Unis, et ce qui étonne beaucoup les membres riches du G20. Je veux parler des Européens et du Japon. Ils sont habitués, parce que le G20, en fait, c'est une structure où les États-Unis parlaient haut et fort, et puis où ils avaient leur petit entourage, leurs vassaux, qui les approuvaient. Puisque la différence fondamentale sur laquelle je reviens entre le fonctionnement des BRICS tel qu'on le voit et tel qu'il va normalement continuer à se développer, c'est que du côté du groupe le G7, en fait, les riches blancs, je fais simple, il y a un chef et les autres qui suivent. Et du côté des BRICS, il n'y a pas de chef. Il y a un groupe de coopération, de discussion, de respect mutuel. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est tout. Et ça, c'est très... Donc, effectivement, le président chinois n'a pas intérêt à venir passer 2 jours en Inde. S'il veut rencontrer le premier ministre indien, il peut le rencontrer dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, dont ils font partie tous les deux. Il peut le rencontrer dans le cadre des BRICS. Il peut le rencontrer en tant que voisin avec des problèmes communs. Ils ont toutes les facilités de le faire. Ils n'ont pas besoin de venir bavarder sous l'œil de M. Biden et sous l'œil de M. Macron. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'ai cité Biden et Macron, mais de tous les autres occidentaux. Ouais. En fait, c'était devenu, et quand on analyse les précédentes réunions du G20, un espèce d'endroit où l'Occident, fier de sa domination en cours d'effritement, venait dire aux autres qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Bon. Donc, c'était des séances de donnage de leçons. Je vais leur dire qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Et puis surtout, ma presse occidentale va dire « Biden a déclaré qu'il fallait ceci, qu'il fallait cela ». Bon, ben, il peut le déclarer aux Canadiens, il peut le déclarer aux Allemands, il peut le déclarer aux Italiens. Mais de toute façon, la politique de la Chine, la politique de l'Inde, la politique du Brésil ne changeront pas parce que M. Biden, quelque part en Inde...
De toute façon, on s'est rendu compte quand même de plus en plus qu'il y a eu un affaiblissement.
Voilà.
Vraiment, c'est clair. Même les gens moyens, ils le voient, ils le sentent.
Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr.
Et que le BRICS, il a pris plus de valeur, plus tout ce groupement de petits pays comme l'Afrique, comme l'Asie, c'est formidable.
Bien sûr.
Et on leur demande absolument pas, il n'y a pas le problème des armes.
Non, pas du tout, non, il n'y a pas de problème militaire. Il n'y a aucun problème militaire.
Voilà, exactement. Voilà.
Alors, il y a des BRICS qui font des manœuvres militaires communes, ça les regarde, mais la Russie et la Chine font des manœuvres militaires communes, mais ils n'impliquent pas le Brésil, ils n'impliquent pas l'Inde.
C'est entre États.
C'est autre chose, c'est entre États. Donc, chacun des BRICS fait sa politique à lui dans les relations bilatérales, et en fait, quand il a à avoir des relations avec un des membres des BRICS, mais il discute posément. Pas avec un revolver sur la table, avec un autre membre des BRICS. Et on parle surtout économie, développement, infrastructure, création d'installations, etc. Et d'industrie. C'est ça. Alors, c'est ça qui est bouleversant, mais c'est pour ça que je voulais m'arrêter là-dessus, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'une bonne partie de la presse occidentale n'avait pas voulu voir ce qui se passait. C'est ça le problème. Et maintenant, ils en sont tous là à dire, à tirer des conclusions. Ben oui, mais vous n'avez pas voulu voir. Mais. Ils ne vous ont pas attendu, c'est ça que je vous dis, ils ne vous ont pas attendu, parce qu'ils ont bien vu qu'ils avaient des intérêts communs, ils ont bien vu qu'ils n'acceptaient pas vos méthodes de travail, il y a un patron et tout le monde doit obéir, que ça, ils n'acceptaient plus. Alors ça fait quelques années, les uns et les autres, qu'ils ont compris ça. Et donc même si les rapports, par exemple, entre l'Inde et les États-Unis sont plus... étroits à l'heure actuelle que les rapports entre la Russie et les États-Unis, qui sont réduits à presque rien pour l'instant, mais ça n'empêche que quand ils se voient entre eux, ils parlent de leurs affaires communes et ils n'attendent pas les commentaires de Washington. C'est ça l'évolution. Et ça, on va le voir au fil des semaines, et ça va s'accentuer encore avec l'entrée dans avec les 6 nouveaux au 1er janvier, et puis les règles seront confirmées pour l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux. Et puis on attaquera sans doute un point dur qui va probablement se sentir au moment de la procès de l'Assemblée générale de l'ONU, donc mois d'octobre, c'est-à-dire la mise en question de la composition du Conseil de sécurité. Car c'est un point fort des BRICS en disant, pour l'instant, dans les 5 autour de la table, il y a 3 occidentaux. Et dont un qui est le chef des 2 autres, soyons clairs. Et donc, en fait, c'est pas normal. Alors, il ne s'agit pas de mettre... Aucun d'entre eux n'a dit qu'il faut que la France et la Grande-Bretagne quittent le Conseil de sécurité. Donc, il a dit simplement il manque une représentation africaine et il manque un pays latino-américain. C'est l'évidence. Bon. Après, il faudra trouver les règles du jeu nouvelles. Mais ça va commencer à se jouer à la prochaine Assemblée générale de l'ONU. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Cette introduction faite, qui nous introduit donc à d'autres réflexions qui auront lieu dans le trimestre en cours jusqu'à l'arrivée, on célébrera ça le 1er janvier, les 6 nouveaux BRICS, et puis l'annonce des prochaines candidatures, ce qui sera très intéressant. Mais on va beaucoup passer de temps, contrairement à ce que j'ai fait la semaine dernière, à parler de la situation en Afrique. Alors, j'essaye de faire un résumé des quelques dernières années, c'est-à-dire des différents coups d'État qui ont agité principalement la bande sahélienne, hein, donc cette bande qui est au nord de l'équateur, entre le tropique et l'équateur, mais et dans la zone sahélienne, donc ça dit bien ce que ça veut dire, mais qui tout d'un coup, la semaine dernière, s'est trouvé basculé sur le Gabon. Alors le Gabon, ce n'est pas un pays d'Afrique occidentale, c'est un pays d'Afrique équatoriale, c'est un pays très différent de ceux dont on a parlé, et donc il faut essayer de trouver une analyse qui soit correcte de ce qui est en train de se passer dans cet ensemble. Parce que, évidemment, c'est très facile pour la grande presse ou la télévision de dire « encore un coup d'État en Afrique », et on met tout ça dans le même sac. Bon, ce n'est pas exactement comme ça que ça doit se passer. Alors, prenons les coups d'État précédents. Donc je veux parler de la Guinée, je veux parler du Mali, je veux parler du Burkina Faso, et le dernier c'était donc le Niger. On a affaire à des pays donc qui sont dans la même zone géographique, qui sont membres tous de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la fameuse CEDEAO, dont on a déjà parlé, qui sont donc en partie désertiques dans la partie nord de leur territoire et en partie irriguées par le Niger. C'est le cas du Niger, du Mali, etc. Bon. Donc des pays très particuliers et qui ont tous cette particularité aussi d'être tous dans ce qu'on a appelé, ce qu'on peut encore appeler la France-Afrique, c'est-à-dire sous le régime de la domination monétaire de la France à travers le franc CFA. Que les choses soient claires, bon, ça, c'est bien ça qui les caractérise. Alors le Gabon vient se rajouter là et on a tendance à dire « Ah ben c'est un coup d'État de plus ». Alors c'est effectivement un coup d'État de plus qui intervient dans des circonstances qu'on a connues dans certains de ces pays, c'est-à-dire il y a une élection présidentielle hein, et le lendemain de l'élection présidentielle, il y a des gens qui sortent en uniforme avec une certaine quantité d'équipement militaire qui disent « Cette élection a été truquée ». Et donc on prend la place. C'est tout ce qu'il y a de commun, j'allais dire, entre l'événement gabonais et les événements précédents. C'est tout ce qu'il y a de commun. Parce qu'il faut regarder le Gabon par rapport à ces autres pays. D'abord, ce Gabon est beaucoup plus petit. Il est beaucoup moins peuplé. Le Gabon, c'est 5,5 millions d'habitants. C'est un petit. Voilà. C'est un pays très très riche par ailleurs, mais ça n'est pas rien à voir avec les 24 millions de Nigériens, avec plus de Maliens. Enfin, c'est une échelle beaucoup plus petite et ça ne fait pas partie de la même communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest.
Oui. Et à ce propos, je voulais juste préciser
vas-y.
L'Afrique centrale et pas l'Afrique équatoriale. Tout à l'heure, tu as dit l'Afrique équatoriale.
Équatoriale.
Oui, c'est l'Afrique centrale, le Gabon.
Exact. Et donc. Ce pays donc est un pays, c'est une espèce de mine à ciel ouvert d'à peu près tout, qui est entre les mains très majoritairement d'une entreprise minière française qui s'appelait Eramet, qui fait la pluie et le beau temps, et qui faisait la pluie et le beau temps parce qu'elle était protégée par la famille Bongo. Alors il faut savoir qu'après la première indépendance et le premier président du Gabon qui s'appelait Léon Mba, il est arrivé un certain Omar Bongo qui a été suivi par son fils Ali Bongo, qui depuis, je crois que c'est 37 ans, je crois, gouverne sans contrôle, le contrôle français dans le dos, mais fait ce qu'il faut pour que la France et Eramet et les intérêts économiques français soient les maîtres du Gabon. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a un refus de la France qui s'exprime par ce refus du résultat qui serait encore la poursuite pour encore 4 ou 5 ans du clan Bongo au pouvoir, avec la même corruption. Bon, c'est vrai, mais à partir de ça, il faut regarder qui vient d'arriver au pouvoir. Alors, qui vient d'arriver au pouvoir, vous avez peut-être vu son portrait, c'est un général, c'est un militaire qui a donc été un peu opposant à la famille Bongo, mais qui en même temps a travaillé, il a été un des courtisans du régime Bongo, donc il est allé et venu, on sait qu'il est immensément riche, ses capacités militaires n'ont pas été prouvées, mais il a un bel uniforme rouge avec tout ce qu'il faut de médailles pour les campagnes qu'il a menées, je ne sais pas où d'ailleurs, mais on a affaire à une espèce de personnage d'opérette, j'allais dire, certainement extrêmement corrompu, mais il n'est pas le seul au Gabon, et qui a dit « c'est le moment, l'image de la France est en train de pâlir, les bongos, la population du Gabon, on a un peu assez, ils sont très très enrichis, maintenant ça suffit, donc c'est le moment de dire « cette élection a été trafiquée, elle l'a probablement été, puisque le candidat des Bongos, il est arrivé très très juste au-dessus de 50%, mais ça n'avait pas été très facile. Et donc, il était certain que ce discours-là serait reçu avec une certaine satisfaction dans l'épaisseur du peuple gabonais. En disant, bah, les Bongos se sont beaucoup enrichis, ils sont très corrompus, la page se tourne, on fait comme les autres Africains, donc les Nigériens, les Maliens, les Burkinabés, on se débarrasse de cette pourriture. Bon, très bien. Après, ils se sont débarrassés. C'est vrai qu'effectivement, les Bongos ne se sont pas manifestés, ben, le père est mort, le fils n'a pas bougé, et donc le nouveau président de transition, qui a prêté le serment hier, ça s'est fait très très vite. Hein. Oui, les élections, c'est dimanche en 8, il y a une semaine. Hein. Donc vrai. Là, il n'y a pas de transition longue, il n'y a pas eu de cris, de protestation du Quai d'Orsay, de Pierre-Paul et Jacques. Non pas du
il
tout.
A déjà prêté serment.
Ça, oui, ça y est, c'est fait. Alors, et je vais m'arrêter sur sa prestation de serment, parce que donc ce général qui s'appelle Brice Oligui Nguema, il a fait un discours, dont j'ai vu la vidéo tout à l'heure. C'est très intéressant. D'abord, c'est très intéressant parce qu'il arrive avec lui décoré comme s'il avait gagné la guerre de 14 à lui tout seul avec les tranchées et tout, bardé de médailles à droite, à gauche. On dirait un général soviétique à l'ancienne, peu importe. Et puis, il dit « c'est Dieu qui m'a mis au pouvoir ». Ah, il dit « ah bon, ah, donc c'est pas le peuple gabonais, c'est Dieu qui m'a mis au pouvoir ». Et les salles s'enflamment de joie. Il y a la salle, ceux qui ont été invités à cette cérémonie, hein.
Ils sont... a fait un signe.
Oui, ils sont très contents. C'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Bon, donc Dieu a décidé que le Gabon allait changer de gouvernement. Bon, très bien, bon, on veut bien. Dieu, on pense que c'est un Dieu chrétien.
Il a prêté serment hier, oui, c'est juste. Ouais. Oui.
On pense que c'est un Dieu chrétien, mais il n'en dit pas plus. Enfin, bon, donc c'est un phénomène qui échappe à la conscience humaine normale. C'est Dieu. Et puis après, il s'engage un peu sur le terrain politique pour annoncer la suite. Et en s'engageant sur le terrain politique, il a fait référence à un personnage de l'histoire africaine contemporaine qui s'appelle Jerry Rawlings. Alors Jerry Rawlings, peut-être ça ne vous évoque pas un souvenir très très précis, mais c'est un monsieur qui est mort il y a, je crois, 3 ans à peu près, en 2020 il me semble, c'est ça, qui a été un dirigeant du Ghana. Donc le Ghana, c'est l'ancienne côte d'or, Gold Coast des colonisateurs britanniques. Le Ghana a une place particulière dans l'histoire de la décolonisation africaine, puisqu'il est de fait, au moment où il est dirigé par un certain Kwame Nkrumah, le premier pays africain colonisé par les Occidentaux qui est indépendant, avant tous les autres, avant tous les autres. Et donc il y a un certain prestige lié à cette position du Ghana, le fait qu'il a été à la tête des mouvements d'indépendance nationale, qu'il a même servi de creuset, je pense, dans les années 59-60, avant que les colonies françaises soient libérées, avant que l'Algérie soit indépendante. Il a été un des lieux de rencontre de tous les dirigeants du tiers-monde qui menaient des luttes de libération nationale. Donc ce Ghana a un rôle particulier. Et M. Rawlings a une carrière politique assez particulière dans le Ghana, puisqu'en fait, il arrive au pouvoir par un coup d'État militaire. Et il y arrive par deux fois, c'est-à-dire la première fois, ça rate, il est chassé, la deuxième fois, ça réussit. Et en fait, c'est assez particulier, et c'est là-dessus que M. Oligui Nguema s'est appuyé. En fait, après être arrivé au pouvoir deux fois par des coups d'État militaires, M. Jerry Rawlings se fait élire. C'est-à-dire, il redevient légitime, il redevient présentable, il redevient démocrate. Hein. On oublie les deux coups d'État et on dit voilà. Et il a été élu deux fois, et même, je crois, une troisième dans des élections démocratiques qui n'ont pas été critiquées. Et donc, c'est lui que Monsieur Nguema va chercher pour dire regardez, hein, ce personnage qui a bonne presse en Afrique, puisque le Ghana a bonne presse. Est considéré comme un pays assez, assez avancé dans ses mœurs politiques dans le reste du continent, eh bien, moi, je vais être comme Jerry Rawlings, c'est-à-dire, je me prends l'uniforme, je me mets dans l'habit d'un autre, hein, qui a commencé, bien sûr, par un coup d'État militaire, c'est bien regrettable, mais les choses sont qu'elles sont et on fait ce qu'on peut, mais après, il a été élu deux fois et il a été un président respecté du Ghana, respecté chez lui et respecté à l'extérieur. Donc, ne vous inquiétez pas, avec pareil patronage, je promets d'être un grand démocrate. Bon, alors ça, on verra. Hein, mais vous voyez que la mise en scène est très, très bien faite. Mais alors, qui y a derrière cette mise en scène ? Alors, clairement, on pense que Paris a rien compris à ce qui se passait, a pas vu venir le coup. Mais quand on regarde un peu la carrière du général Guémin, on voit que, par contre, il a ses entrées aux États-Unis. Formation, formation militaire, voilà. Donc, on peut penser, et là, d'une certaine façon, ça ressemble à la situation au Niger sur laquelle je vais revenir, qu'effectivement, les États-Unis sont en train, dans la panique générale de leur politique africaine. Je rappelle quand même, on ne l'a pas dit la semaine dernière, qu'à la réunion Russie-Afrique, qui s'est tenue fin juillet à Saint-Pétersbourg, il y avait 49 États africains sur 54 qui étaient représentés. Donc, du point de vue du département d'État de M. Blinken et M. Biden, c'est la panique. Il y a 49 États qui ne dédaignent pas d'aller discuter, d'aller préparer des plans d'intervention, des investissements en Russie. Donc, à ce moment-là, quelle est la conception qui s'élabore aux États-Unis ? C'est dire ben, la France ne maîtrise plus, la France est débordée, elle est impopulaire, ça on a compris, et elle a fait tout ce qu'il faut pour l'être. Hein ? Bon, très bien. Et ben, vite, on essaye de sauver les meubles de l'Occident, c'est-à-dire nos meubles à nous, en prenant la place là où la France a fait faillite. Bon. Et c'est, je pense, comme ça qu'il faut interpréter l'arrivée du général Guémin au pouvoir. Alors, peut-être un jour sera-t-il élu à la régulière, on verra bien. Toujours est-il que...
Je crois qu'il était le général qui gardait...
Oui, il a été le chef de la garde présidentielle.
Présidentielle.
En fait, à la limite, c'est presque un traître à la famille Bongo. Hein. Bon. Et donc, effectivement, il était au courant de tout. Il faisait partie de l'entourage présidentiel. Et donc, pour les États-Unis, c'est une bonne carte à jouer. Pour le peuple gabonais, est-ce que ce sera compris comme ça ? C'est pas sûr. Alors, le plaisir de se voir débarrasser du clan Bongo, bon, peut-être il y a un moment de plaisir, et puis après on verra. Ce qu'il faut signaler, c'est que quand même, chez les voisins, parce qu'il y a des voisins, ce pays n'est pas tout seul, alors il n'est pas dans la CEDEAO, mais il est membre d'un autre groupement régional qui s'appelle la Communauté des États d'Afrique centrale, où on retrouve le Congo, l'Angola, le Rwanda, le Burundi, enfin ils sont une dizaine là, et qui eux ne sont pas du tout d'accord, hein, et qui voient très bien que ce personnage en fait travaille pour un autre pays. Hein. Et donc tous ces pays-là, alors je rappelle, le Congo c'est quand même beaucoup plus gros, hein, c'est 100 millions d'habitants, un grand pays, l'Angola c'est une des meilleures armées d'Afrique, le Rwanda et le Burundi sont le Rwanda surtout assez développés, bien que dirigés par un personnage pas recommandable, bon, tout ça, alors ces pays-là, on dit clairement, et ça c'est très intéressant parce que c'est la réaction tout à fait inverse de celle de la CEDEAO par rapport au coup d'État au Niger, on dit mais nous on ne reconnaît pas. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette affaire-là. Donc, ils ont très, très bien compris, sans dire officiellement, c'est le candidat des États-Unis, ils ont très, très bien compris à qui ils avaient affaire. Ils le connaissent déjà de près, ils savent qui c'est, et ils voient très bien à qui ça va profiter. Et ça, ils n'en veulent pas. Ça, ils n'en veulent pas. Donc là, on a une situation qu'on va vous présenter dans la grande presse française comme il y a des coups d'État tous les 15 jours, c'en est un de plus. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Non. C'est là-dessus que je voulais quand même intervenir. Après, comme c'est une situation chaotique, hein, donc un peuple qui attend d'être libéré de la dictature familiale qui a trop duré, qui attend d'être libéré de l'influence française, qui est extraordinairement forte, puisqu'elle était favorisée par le système Bongo, va peut-être se dire que ce n'est pas exactement ce qu'il souhaitait. Mais l'intervention du peuple dans le coup d'État, elle est quasi nulle. Il n'y a pas de manifestation de rue au Gabon, à Pointe-Noire. Il n'y en a pas. Hein, donc ils disent, ben voilà, ça, au palais présidentiel, il y a eu un changement. Mais c'est dans le palais présidentiel, c'est une affaire de cour. C'est pas plus que ça.
Est-ce qu'ils ont récupéré le trésor de Bengo Ali ?
On ne sait pas. On ne sait pas. Là, il y a encore certains... Mais lui, le Nguema, il sait certainement où il est, le trésor.
Hein, oui, il y a beaucoup d'argent qui a été récupéré.
Qui a été récupéré.
Ça a été, oui.
Voilà. Alors ça a été fait, mais après tout, c'est un voleur qui en vole d'autres, quoi, je veux dire. Donc on n'est pas très... Donc je voulais m'arrêter là-dessus parce qu'effectivement, on n'est pas dans la situation du Niger. Et sur le Niger, je voulais quand même faire un point parce que après les annonces de l'intervention militaire des voisins, on est en train d'arriver à une phase beaucoup plus calme. C'est-à-dire qu'il n'est plus question maintenant, sauf dans des discours excessifs, d'une intervention militaire de la CEDEAO. Il n'est plus du tout question de ça. Parce que d'abord, dans la CEDEAO, il y avait des pays qui avaient dit non tout de suite, et puis les autres qui se tâtent, et puis d'autres pays qui ont dit « Mais si la CEDEAO envoie des troupes, nous on enverra les nôtres. » C'est ce qu'ont dit les Burkinabés et les Maliens.
Ouais,
donc
le Mali.
Personne, finalement, n'est prêt à ce qu'il y ait une espèce de guerre intra-africaine autour de la question du Niger. Donc c'est une autre évolution. Mais là aussi, ben c'est la France qui est perdante parce qu'elle a mérité de perdre, en ce sens que si elle est mal vue, c'est qu'elle a tout fait pour l'être. Alors après, on va nous apitoyer sur le sort de l'ambassadeur. Alors moi, je suis pas au Niger, je suis pas à Niamey. Il ne lui arrivera rien, évidemment. Les militaires nigériens vont pas faire la bêtise de faire du mal à ce monsieur. C'est l'évidence. Hein. Donc ils lui ont dit, vous devriez partir. Bon, s'il part pas, ben il part pas.
Ah voilà. Ben, actuellement, on négocie là,
oui.
Le départ d'une partie de l'armée française.
Voilà, ce qui est important là, c'est concret. L'armée française, elle n'a pas de protection diplomatique, elle n'a pas d'immunité. L'ambassadeur, il a une immunité. Tant qu'il reste dans l'ambassade, il lui arrive rien. Rappelez-vous, ça n'a rien à voir parce que ça s'est passé en Angleterre, que M. Correa, président, Rafael Correa, président de l'Équateur, a été a donné son accord pour qu'on retienne Julian Assange pendant des jours, pendant des années dans l'ambassade d'Équateur à Londres, et que tant qu'il a été dans l'ambassade d'Équateur, on n'a rien pu lui faire à Assange. C'est au moment où les Équatoriens, une fois que Correa a été parti de la présidence équatorienne, donc au moment où le représentant Lénine Moreno, le traître, a dit à la Grande-Bretagne « Je mets M. Assange sur le pas de la porte, maintenant vous pouvez venir l'enlever », que ça c'est fait. Mais autrement, l'ambassadeur de France à Niamey, il peut rester autant de fois qu'il veut. Je pense qu'ils ne l'affameront pas, c'est pas leur problème. Ils ont d'autres problèmes plus sérieux à régler. On pourra nous faire nous émouvoir ici et là. C'est pas du tout leur jeu et on n'a pas affaire à des imbéciles. Ça aussi qu'il faut s'en rendre compte. Bon. Et leur intérêt, c'est évidemment que l'armée française s'en aille. Après, ils ont le même problème, mais d'une autre façon, et ils le connaissent, c'est que l'armée américaine est très, très présente au Niger. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait réel. Elle est tellement présente que la base de drones d'Agadez, qui est au Niger, qui est une des deux grosses bases de l'armée des États-Unis sur le territoire du Niger, c'est la deuxième plus grosse base militaire des États-Unis sur tout le continent africain, après celle de Djibouti. C'est énorme. Énorme. Et donc ça, les militaires nigériens, ils le savent. Ils le savent. Et s'il y a effectivement dans l'équipe qui a pris le pouvoir des gens qui ont été formés aux États-Unis, ben, il y en a dans tous les pays africains, quasiment, des gens qui ont été formés dans les écoles militaires des États-Unis. Ils savent très bien qu'ils sont là. Ils savent très bien que c'est une autre paire de manches de chasser l'armée des États-Unis que de chasser l'armée française. On prend les choses les unes après les autres. On ne fait pas tout à la fois. Et on ne veut pas affronter directement les États-Unis qui, alors, à la différence de la France... ça, je le dis parce que je pense que ça serait comme ça, les États-Unis n'hésiteraient pas à faire un bain de sang. Ceci étant, ils n'ont pas intérêt. Leur position sur le continent africain, leur position mondiale est suffisamment affaiblie pour qu'ils ne commettent pas cette erreur-là. Ouais. Donc je pense qu'ils vont se tenir plutôt prudemment dans l'expectative tant que les généraux nigériens ne viendront pas les chatouiller ou les pousser un peu à se mettre en colère. C'est comme ça qu'il faut voir l'évolution de la situation. Vous voyez, donc, du Gabon au Niger, surtout sortez de cette espèce d'analyse « Ah ben, il y a un coup d'État en Afrique, comme il y en a tout le temps, il y a des généraux qui ont pris le pouvoir », cette espèce de farce politiquement triste. Puisqu'au fond, on dit « Ah, mais il y a toujours des coups d'État en Afrique ». Oui, mais il y a des contextes qui sont très différents. Au Gabon, il n'y avait pas de base militaire des États-Unis. Il y avait simplement un monsieur qui avait fait sa formation aux États-Unis, mais il y en a beaucoup d'autres, il y en a partout. Il faut savoir que pour les États-Unis, militairement, le Niger, c'est très, très important. Puisqu'il y avait beaucoup de monde, puisqu'il y avait deux bases fixes, donc la plus grosse base de drones, et deux bases non fixes, des bases dans le pays, dans la campagne. Bon. Donc il y a plus de soldats des États-Unis sur le sol du Niger qu'il n'y a de soldats français aujourd'hui. Alors de là à dire... Alors vous avez dans certains cercles des nostalgiques de la colonisation française. Oui, mais on doit rester puisqu'autrement on laisse la place aux États-Unis. Bon, il faut bien se rendre compte que si la France est devenue impopulaire, c'est que les Nigériens se sont rendus compte que la présence française ne leur profitait pas beaucoup. Peut-être un jour, c'est la présence d'États-Unis qui sera impopulaire aussi si les États-Unis font la faute, les fautes d'être trop présents. Là, pour l'instant, ils se contentent d'une présence militaire qui était tellement importante qu'en fait, sans la présence militaire des drones, du contrôle radar, du contrôle par les avions de surveillance du ciel nigérien, l'armée française ne pouvait rien faire. C'est ça qu'on ne dit pas, parce que cette armée française qui dit « oui, nous, on est les maîtres du terrain, on connaît, on est là depuis 100 ans, etc. », c'est pas vrai. Aujourd'hui, les troupes françaises, que ce soit, c'était le cas au Mali au moment de Barkhane, c'est le cas au Niger aujourd'hui, ça serait le cas en Côte d'Ivoire. Les troupes françaises sont dans l'incapacité de mener une opération militaire sans l'aide technique et la surveillance des États-Unis. Voilà. Donc nous sommes le petit colonisateur. Le gros maître de la colonisation, c'est les États-Unis, c'est pas nous. Mais il faut qu'on sorte de cette idée-là. Alors il y a, en France, il y a des nostalgiques de la colonie française qui disent « Ah oui, mais on leur laisse la place. » Voilà. Ben, de toute façon, on a perdu la nôtre, mais on a intérêt à peut-être avoir un autre rapport avec ces pays-là, parce qu'il n'y a pas d'hostilité par rapport aux citoyens français. Il n'y a pas d'assassinat de citoyens français au Niger ou au Burkina Faso. Il y a simplement une hostilité par rapport à la politique coloniale française et par rapport en particulier à la politique de tutelle financière et monétaire. Parce que ça, tous les Africains de la zone du franc CFA, ils savent ça. Et ils en ont assez depuis très très longtemps. Voilà, c'était ça que je voulais dire un peu sur l'Afrique. Alors, pour vous faire rire, je vais vous faire écouter... Alors, faire écouter un petit morceau, qui est un morceau de bravoure. Alors ça date pas de cette année, mais ça, c'est très très instructif. Je vais vous faire écouter Madame Meloni. Alors Madame Meloni, c'est cette première ministre italienne, la présidente du Conseil, comme on dit en Italie, qui est donc de droite, entre la droite et la droite extrême, qui est donc à la tête du parti qui s'appelle les Frères d'Italie, Fratelli d'Italia, et c'était en 2018. Mais elle faisait un discours sur la colonisation française. On va l'écouter, et puis vous verrez l'atmosphère. Alors, le style du personnage, quand on dit la droite et l'extrême droite, à sa façon de s'exprimer, ça s'entend très très bien. Et vous allez écouter, quand même, je vous ferai un commentaire de ce qu'elle dit, pour ceux qui, d'entre vous qui ne comprennent pas l'italien, c'est facile à suivre, mais ça mérite d'être entendu. Voilà, on écoute Madame Giorgia Meloni, la Meloni, comme ils disent en Italie.
Burkina Faso. Il Burkina Faso è una delle nazioni più povere del mondo. Per il Burkina Faso, che ha l'oro, la Francia stampa moneta coloniale. In cambio pretende che finiscano nelle casse del tesoro francese il 50% di tutto quello che il Burkina Faso esporta. L'oro che questo bambino si infila in un cunicolo per tirare fuori finisce per lo più nelle casse dello Stato francese. Allora la soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa. La soluzione è liberare l'Africa da certi europei che la sfruttano e consentire a queste persone di vivere di quello che hanno.
Alors c'est une conférence, je ne sais pas à quelle occasion, devant du public, donc ça doit être des gens de son parti, et elle sort devant, donc, sur le micro, la photo d'un jeune burkinabé dans une mine, je ne sais pas une mine de quoi, une mine d'or, etc. Et elle dit « voilà ce que la France fait des enfants de ce pays ». Ça fait mal, c'est hein. Et oui, et ben ça, c'est la vérité. Bon. Alors, c'est pas parce qu'elle est de droite qu'il faut dire qu'elle dit pas. Elle dit voilà, ça, c'est la vérité. Bon. Et elle ajoute à ça, il faut savoir que ce pays est sous la tutelle de la financière et monétaire française et que la moitié de l'argent qui est récolté par quand le Burkina exporte un produit quelconque à l'étranger, la moitié de la somme qu'il a reçue, puisqu'il a vendu des produits qu'il a fait lui, reste dans le trésor français. C'est ça. Elle fait qu'expliquer ce que tous les Africains savent depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a un abus de pouvoir manifeste. Cette monnaie permet effectivement de mettre sous tutelle tous les pays qui y sont soumis, et que c'est dans le trésor français, donc à la rue de Rivoli, au ministère des Finances, maintenant à Bercy, qu'il y a l'argent gagné par des Africains et par des Burkinabés, comme l'argent gagné par des Maliens, etc. Et ça, elle le dit. Mais alors, c'est pas parce qu'elle est de droite ou d'extrême droite qu'elle a tort de lire, c'est la vérité. Et tous les Africains des pays colonisés par la France le savent aussi bien. Mais c'est la première fois qu'un chef de gouvernement étranger le dit si violemment. Et elle le dit si violemment parce que Macron s'était permis de faire des remarques sur la façon dont l'Italie était gouvernée.
Ouais.
Alors évidemment, il lui avait, comme on dit, ouvert un boulevard pour qu'elle dise « Attends, qui tu es pour me parler comme ça ? Qui c'est, toi, le chef de la France-Afrique ? Comment tu te comportes ?» Et alors, elle avait joué très fort avec l'image du jeune mineur burkinabé montré devant tout le monde. Mais en fait, elle tenait un discours anticolonialiste qui aurait dû être tenu par nous. Alors, il faut qu'on réfléchisse à ces problèmes parce que on a, on a affaire à des gens qui politiquement sont tout à fait condamnables. La politique qu'elle mène par rapport à la classe ouvrière et à la population italienne en ce moment est catastrophique. Il y avait une espèce de RSA qu'elle va supprimer. Elle refuse qu'il y ait un salaire minimum en Italie. Elle dit qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'immigrés qui viennent parce que comme ça, ils font pression sur les Italiens pour que les Italiens travaillent moins cher. Ben, donc, elle a une politique de droite dure, très très caractéristique. Bon, donc, il n'y a rien à attendre d'elle. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas dans notre pays et dans les autres pays d'Europe des oppositions de gauche qui soient capables de porter haut et fort ce discours sur le colonialisme français. C'est très très faible comparativement. Et donc ce discours est pris par des gens de droite ou de droite extrême pour leur petite guéguerre entre eux. Et en fait, ils nous l'enlèvent de la bouche. Pourtant, quand elle dit effectivement l'argent gagné par les Burkinabés ne doit pas rester à Paris, elle a raison. Mais c'est pas parce qu'elle le dit qu'il faut qu'on le dise pas. Il faudrait qu'on le dise 50 fois plus fort qu'elle. C'est ça la réalité du problème politique tel que nous l'avons. C'est-à-dire que nous sommes dans des pays, et la France n'échappe pas, où la droite parle très haut et très fort, et où la gauche perd son temps sur des sujets secondaires. Bon, on pourra faire une émission là-dessus, c'est nécessaire. Bon. Bien. Voilà ce que je voulais dire sur la Meloni. Alors après, elle continue, mais on va pas passer la suite. Mais après, elle continue, et elle explique aussi qu'au Niger... La France, ben là, après elle parle du Niger, c'est une autre intervention, mais c'est dans le même ton et sur la même voie. Elle est agressive, elle est quand même de droite dure. Hein.
Macron a dû faire une bêtise.
Oui, oui. Ah oui. Elle dit d'abord, Macron nous considère comme des corrompus, des cyniques, etc. Mais c'est lui. Hein. Effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Elle n'a pas tout à fait tort. Hein. Et puis, elle dit, au Niger, la France extrait 30% de l'uranium qui est nécessaire pour ses centrales nucléaires. Et elle dit, ce qui est vrai, ce que les Nigériens savent, c'est que 80% de la population du Niger n'a pas l'électricité. Alors, on laisse le dire par cette personne qui n'est pas fréquentable, pas très intéressante, mais il faudrait qu'on le dise, nous, tous les jours, sur les antennes de la radio française. C'est ça qui est dommage, c'est-à-dire qu'on a une espèce d'affaiblissement, de silence de la gauche qui fait que c'est des hommes de droite, pour leur critique, leurs problèmes internes et pour leur... leur façon de se comporter, qui nous prennent les arguments qui sont les bons. Et elle ajoute même, dans cette séquence, sur la deuxième séquence qu'on va pas réécouter, elle ajoute même en disant « Qui a tué Kadhafi ? C'est pas moi !» Et elle dit « C'est Sarkozy !» Mais effectivement, elle dit, elle a raison de dire, hein, c'est la vérité, c'est Sarkozy qui a fait tuer Kadhafi. Et elle dit « Alors que nous... » Et c'est la vérité aussi. Nous, alors c'était pas elle, c'était Berlusconi. Berlusconi, avant que nous allions, nous, assassiner Kadhafi, nous, Français, enfin, moi, je me sens pas coupable, je me sens même impliqué dans un assassinat que je ne souhaitais pas. Hein, mais c'est nous qui avons décidé donc de tuer Kadhafi. Et elle a raison de dire que l'Italie avait, donc je parlais de Berlusconi, l'Italie avait prévu de signer un traité d'amitié avec la Libye en échange de pétrole libyen, puisque l'Italie n'a pas de pétrole. Bon, oui. Et elle dit, ça, les Français se sont assis dessus. Alors nous, on n'avait pas des rapports aussi violents, on n'avait pas l'intention de tuer Kadhafi. Tout ça m'amène à parler, puisqu'on est sur l'Italie et sur les rapports avec les pays voisins, et en particulier la Libye, de parler de la dernière nouvelle de la semaine qui est énorme. Qui est énorme, à savoir, ça s'appelle Ustica. Alors Ustica, c'est un mot que vous n'avez jamais vu nulle part. Alors Ustica, c'est une petite île italienne qui est en gros à 100 km au nord de Palerme, dans la mer Tyrrhénéenne, où a eu lieu... donc on était en juin 1980, donc Giscard était président de la République, Raymond Barre était Premier ministre, et où a eu lieu la chute d'un appareil commercial, un vol commercial, avec 81 personnes qui sont toutes mortes avec l'équipage et tout, ils sont sombrés en mer, à la suite du tir d'un missile. Bon. et on n'en a jamais su beaucoup plus. Or, il se trouve que la semaine dernière, M. Giuliano Amato, qui a été président du Conseil italien, et qui est aujourd'hui, c'est dans la fleur de l'âge, j'allais dire, il est président de la Cour constitutionnelle italienne, donc il a quand même une certaine assise politique et un certain respect, il a dit, mais effectivement, c'est la France qui a fait tomber le DC-8, Stika. La France a tué 81 personnes d'un vol civil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il s'est passé la chose suivante. L'OTAN avait décidé... Alors, Kadhafi était en visite au nord de la Méditerranée. Je ne sais pas dans quel pays il était, mais il devait rentrer dans son pays à bord d'un MiG. Donc, il avait été prévu par l'OTAN de mettre en place des manœuvres militaires le jour où il devait, enfin la semaine où il devait rentrer dans son pays, donc en traversant la Méditerranée. Et il avait été imaginé que dans ces échanges de tirs qui auraient lieu à l'occasion des manœuvres prévues par l'OTAN, il y aurait par erreur un missile qui toucherait juste le MiG de Kadhafi. Kadhafi serait mort. Le plan était déjà là, il a été exécuté un peu plus tard, il était déjà là, c'était 20 ans avant. Hein. Alors ça a raté pourquoi? Et là, Amato a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, en fait, le président du Conseil italien de l'époque, qui s'appelait Bettino Craxi, qui était un socialiste, a prévenu Kadhafi qu'il y avait un coup tordu contre lui qui se préparait. Ah! Et alors, ce qui s'est passé, c'est que Kadhafi n'est pas monté dans le MiG où il devait monter. Le MiG dans lequel il devait monter... En fait, c'est caché, parce que c'est un truc classique pour éviter dans ces manœuvres-là d'être attaqué. Le MiG s'est caché derrière le vol commercial. Oh. C'est-à-dire, en tirant sur l'un, on pouvait tirer sur l'autre en même temps. Hein. Et Kadhafi a pris le MiG d'après. Hein. Et donc Kadhafi est rentré au pays sans bourre.
Ça s'est passé en Syrie, l'avion russe.
Voilà, pareil.
Pareil, oui. Bon, que et les donc, Israéliens... Voilà.
Alors là, ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, c'est avéré. Ça avait déjà été dit, mais ce n'était pas confirmé. Mais pour que ce personnage dise, voilà, moi, je suis ancien président du Conseil, je suis président de la Cour constitutionnelle, j'étais membre du gouvernement de M. Craxi, mais il ne m'a pas dit ce qu'il avait fait, mais je sais que c'est lui qui a prévenu Kadhafi en disant, attention, il y a un coup tordu contre toi, change d'avion, ce qu'il a fait, il a sauvé sa vie. Hein. Donc, c'est l'Italie qui a sauvé la vie de Kadhafi. C'est un dirigeant. Ça, c'est très intéressant de le dire. C'est pour ça qu'ils avaient des rapports un peu particuliers, ces deux pays, qu'on a retrouvé dans le cas que je vous citais à propos de Berlusconi et du pétrole. Mais après, qui a tiré le missile? Et là, Amato, il est parfaitement clair. C'est l'armée de l'air française qui a tiré un missile depuis la Corse. Ah. Donc l'armée française, le président de la République française, le Premier ministre Raymond Barre, sont responsables de l'assassinat en vol de 80 citoyens italiens dans un vol civil. C'est ça. Alors, ça fait partie des relations difficiles. Alors, quand la Meloni se met à attaquer la France, elle n'est pas le seul, puisque Amato, d'une certaine façon, il pose une énorme bombe dans les relations diplomatiques entre la France et l'Italie, qui sont mauvaises, par ailleurs, sur toute une série de sujets. Et ce que dit Amato, ce qui est très très habile de sa part, Amato dit, Monsieur Macron, j'ai vérifié, il avait 3 ans au moment du Stika. Il y est pour rien, c'est pas lui. Donc, il devrait reconnaître les faits, envoyer des condoléances et des regrets aux familles, à la limite donner même de l'argent, une compensation.
Indemniser. Hein,
ça serait correct, il serait à la hauteur. Que va faire Macron, hein? C'est très intéressant. Voilà. Alors, c'est très intéressant à suivre parce qu'on parle beaucoup de l'Union européenne, etc. Quand il se passe dans deux des plus gros pays de l'Union européenne, je mets l'Allemagne un peu au-dessus, mais la France et l'Italie sont les deux autres puissances économiques de cette Union européenne. Des relations qui sont au niveau de brutalité verbale, de provocation de ce type-là, on se dit que l'Union européenne est en mauvaise santé. Parce que pour qu'entre deux gouvernements importants de l'Union européenne, il y ait ce type de rapport, hein, où on te sort les assassinats de masse, les mineurs du Burkina, le franc CFA, la situation n'est pas bonne. Hein, la situation n'est pas bonne. Et même dans l'autre partie du discours de la Meloni que je n'ai pas passé, elle dit, en plus, quand il arrive un migrant que nous laissons passer, puisque c'est les règles de Schengen et tout, qui va les accueillir à la frontière? C'est la gendarmerie française, et elle les accueille mal. Hein. Et qu'est-ce qu'elle dit pour conclure ? Et je m'arrête sur ce qu'elle dit pour conclure. Elle dit, mais il y en a assez. Il y en a assez de cette exploitation coloniale de l'Afrique par la France. Il faut que les Africains puissent vivre chez eux. Mais en fait, c'est un discours que nous pouvons tenir. Et le problème, c'est qu'elle nous vole ce discours, parce qu'elle n'en pense pas un mot. C'est son intérêt de dire du mal de la France. Hein, et qu'aucune politique n'est menée par l'Union européenne aujourd'hui pour que ces pays-là puissent vivre tranquillement. Parce que ça supposerait le rapport, et ça, elle ne le dit évidemment pas, parce qu'elle est de droite. Elle le dit évidemment pas. Pourquoi ça pose problème ? Parce que si ces pays-là étaient réellement indépendants, eh ben, le prix de l'uranium serait beaucoup plus cher, le prix du cacao serait beaucoup plus cher. Voilà. Et donc, ça changerait tout. Effectivement, si ces produits-là sont pas chers, c'est nous, c'est la France, c'est le trésor, hein, c'est Bercy qui a l'argent dans la caisse. C'est ça la différence. Donc c'est la rupture du lien colonial. Ça, elle n'aborde pas le sujet, parce que c'est un peu délicat pour elle. Hein. Elle n'est pas capable de l'aborder, puisqu'elle mettrait tout par terre. Mais on en est là dans les rapports à l'intérieur de l'Union européenne. C'est très, très intéressant pour la suite des événements, et je pense qu'on y reviendra. Voilà. Qu'est-ce que je voulais... Alors, ça, c'est...
L'Ukraine, non ?
L'Ukraine, oui. Alors, un mot... Si, quelques mots sur l'Ukraine. Ouais. Alors, d'abord, parce que circule et n'est plus contesté le chiffre du nombre de morts ukrainiens au combat. C'est-à-dire, on est au-delà de 300 000. Entre 300 et 400 000 morts au combat.
Pareil, ouais.
Alors, pourquoi ils sont morts au combat ? Parce que, de toute façon, et c'est là l'erreur, on a beau leur envoyer tous les chars et tous les obus qu'on veut... l'Ukraine n'a pas la maîtrise de l'air. Hein.
Et donc, il l'a dit hier.
Voilà.
Poutine.
Donc ils peuvent envoyer tout ce qu'ils veulent hein, à longueur de temps. Ça coûte assez cher, mais ça ne remplace pas la maîtrise du ciel. Et la maîtrise du ciel, c'est la Russie.
C'est l'OTAN qui le
c'est
fournit.
La Russie, voilà. Et l'OTAN, alors en fait, l'OTAN peut dépenser autant d'argent qu'elle veut. En fait, l'OTAN fait des morts en Ukraine à longueur de semaine. Hein. On est à des 1500 morts par jour dans les offensives. Par jour.
Ça, c'est fou. Hein.
Voilà. Alors on se demande s'il reste encore des Ukrainiens. D'ailleurs, il y en a qui se cachent pour ne pas y aller. Pour pas... Voilà. Bon. Donc c'est ça, en gros, la situation en Ukraine s'en développait beaucoup plus. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Je voulais ajouter, à propos, donc, on a parlé de la Russie, il faut en parler, puisqu'il y a eu donc une rencontre entre Erdogan et Poutine qui a eu lieu à Sotchi. Qui n'a pas été une rencontre générale où on a abordé tous les sujets, c'était une rencontre de mise au point, où, en gros, je vais dire les choses pour ce qu'elles sont, Poutine a convoqué Erdogan en lui disant « Maintenant, il faut arrêter la comédie sur l'histoire des céréales, hein, ou tu respectes les accords, ou bien nous, on ne change pas de position, on ne les respecte plus, hein, les accords sur les céréales. » Il a ajouté à cette occasion qu'il était prêt, si les bateaux peuvent passer à travers le Bosphore et les Dardanelles, donc si la Russie, si la Turquie les laisse passer, à envoyer gratuitement des millions de tonnes de grains dans les pays qui en ont besoin.
Cinq pays africains.
Et il a repris les chiffres en disant, soi-disant, vous deviez envoyer du blé, vous devez laisser passer du blé ukrainien pour les pays pauvres. En fait, 70% des envois de blé ukrainien ont été destinés aux pays d'Europe. Hein. Donc il a mis les choses au point et je pense que là, Erdogan, qui n'aime pas ça, mais a dû se faire un peu petit. Et donc on n'a pas, enfin apparemment, officiellement, ils n'ont pas abordé d'autres sujets. C'était une mise au point très très claire parce qu'on attendait une espèce de grand rassemblement où on met tout sur la table, la Syrie, l'Ukraine et tout. C'est pas du tout ça. Hein. Poutine a dit, il y avait des accords, vous les faites pas respecter. Donc tant que vous ne les ferez pas respecter, nous on suspend et on continue. Alors après, les commentaires, si ça va s'arranger, on ne sait pas si ça va s'arranger, parce que là, Erdogan est au pied du mur. Ou bien il joue le jeu, c'est-à-dire laisser passer aussi le blé russe et les engrais russes qui manquent sur le marché international, hein, ne pas tricher, hein, ne pas laisser passer des envois de céréales ukrainiennes avec des armes cachées dans le grain, parce que ça... C'est lui qui doit contrôler au passage des détroits. Or, c'est ce qui se passe. Il a réussi à apporter des preuves. Il y a des armes cachées dans le grain, ou des armes qui reviennent dans les bateaux qui exportent du grain. Il revient à la place, quoi, de l'armement pour l'Ukraine. Ça, ça ne fait pas partie des accords. Hein. Ça ne nourrit personne, les armes. Hein. Bon, ça tue. Donc là, on a, je pense, progressé. Et dernière chose que je voulais dire... avant que nous achevions, c'est vous rappeler que donc mercredi prochain, on a une très intéressante émission, l'émission mensuelle, qui sera consacrée à la médecine à Cuba. Ah, la médecine
vrai,
à Cuba, qui est une médecine socialiste, c'est-à-dire une médecine gratuite pour tout le monde, dans des conditions où chacun peut se faire soigner gratuitement, 100%. Voilà. Ouais. C'est ce qui existe dans un pays socialiste qui s'appelle Cuba, un pays pauvre qui soigne son peuple et qui soigne les peuples des autres à l'occasion. Mais ne nous limitons pas simplement à la question des médecins cubains envoyés ici, là, au Pakistan, en Indonésie, etc. La population cubaine est soignée, bien soignée, par un corps médical très bien formé, de très haut niveau, dans un pays pauvre. On peut soigner 100% d'une population dans un pays pauvre. Je n'ai pas parlé, Roselyne, des élections en Côte d'Ivoire. On en reparlera pour dire qu'il y a des coups d'État, mais il y a aussi des élections qui ne servent pas à grand-chose puisqu'elles sont truquées d'un bout à l'autre. Il faudra qu'on fasse le point là-dessus. Voilà.
Oui, on peut appeler ça des coups d'État constitutionnels.
Voilà, c'est des coups d'État soft. Voilà, exactement. Voilà. On en reparlera. Merci, Roselyne. Merci à tous les auditeurs. Merci, Habib. Et à la semaine prochaine pour le mardi et le mercredi.